Beaucoup de ferveur ce matin en l'église de Rivière-Salée. En ce premier dimanche du carême, la messe dominicale était animée par les joueurs du 15 du Pacifique. C'est Jean-Pierre Jaoué, le chef du groupe Uni au Congrès, qui était vendredi l'invité du magazine Transparence. Il a défendu l'accord de Bougival et son accord complémentaire. Élisée Audineau, extrait dans ce journal. Plus de 3000 personnes rassemblées à Lyon cette nuit pour une marche blanche en hommage à Quentin, tué la semaine dernière par des militants d'ultra-gauche. Rassemblement qui s'est déroulé dans le calme. À l'ouverture du 62e salon de l'agriculture à Paris, lors de sa déambulation dans les allées de la plus grande ferme de France, Emmanuel Macron s'est arrêté au stand de la Nouvelle-Calédonie. Le sport et le football, et Antoine Camboiré qui pourrait reprendre du service en Ligue 1. Le Calédonien est pressenti pour devenir l'entraîneur du Paris FC. Trois nouvelles médailles pour l'équipe de France aux Jeux Olympiques de Milan-Cortina, de l'or et de l'argent en biathlon et une médaille d'or en ski alpinisme. Et puis un beau succès populaire pour le NEA City Trail organisé hier soir par Pro Events. Le premier événement de la saison a réuni plus de 1200 participants au départ des boucles de Tina. Bonjour, très bon dimanche et soyez les bienvenus dans ce journal. C'est une messe un peu particulière qui s'est déroulée ce matin à Rivière-Salée pour ce premier dimanche du carême. Messe particulière puisqu'elle était animée, je vous le disais, par les joueurs du 15 du Pacifique, l'équipe de rugby militaire qui est en Calédonie depuis quelques jours. Une messe célébrée par le père Michel Toekidjo qui a marqué en quelque sorte le coup d'envoi des commémorations des 80 ans du retour du bataillon du Pacifique en Calédonie après la Deuxième Guerre mondiale. Une messe à laquelle a assisté le général Soubrier, le commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie.
Le 15 du Pacifique rentre dans le cadre des commémorations des 80 ans du retour des volontaires du Pacifique. Et dans ce cadre-là, j'ai souhaité donner du sens à ces célébrations en initiant finalement cette année mémorielle avec l'arrivée de ce 15, de cette équipe de rugby militaire qui finalement incarne le bataillon du Pacifique puisqu'ils viennent de l'ensemble des armées. Et surtout, ce sont des enfants du pays, des enfants de nos pays, puisqu'il y a des Polynésiens, des Calédoniens, des Wallisiens, des Futuniens. Et en agrégeant tous ces jeunes sportifs du 15 du Pacifique, finalement, on incarne l'esprit des volontaires du bataillon du Pacifique qui ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale, qui sont revenus le 21 mai 1946 et pour lesquels on célébrera les 80 ans du retour cette année. Donc ça a beaucoup de sens. C'est un grand moment d'émotion. C'était une célébration, une messe qui était célébrée aussi pour nos anciens qui ne sont plus là, mais qui, j'en suis sûr, étaient auprès de nous pendant cette messe. Nos jeunes aussi, qui sont toujours engagés au sein des armées, comme ça a été dit par le porte-parole du 15 du Pacifique, et très bien accueillis par le père Michel, qui nous a vraiment accueillis chaleureusement. Et donc une messe qui a eu beaucoup de sens pour tous.
Et lors de leurs différentes tournées, notamment leur tournée dans la région, les joueurs du 15 du Pacifique animent régulièrement des messes, des moments toujours chargés d'émotions, évidemment, pour l'adjudant Opajo, le capitaine du 15 du Pacifique pour cette tournée en Calédonie.
C'est toujours un plaisir et un réel bonheur de pouvoir animer un culte. Ça fait partie de notre tradition dans le Pacifique, du coup... C'était naturel pour nous de venir ce dimanche et de pouvoir animer ce culte. Comme d'habitude, beaucoup d'émotions, on sent qu'il y a beaucoup de moments de partage à travers nos chants, à travers les paroles qui sont dites durant le culte. Donc, ouais. L'objectif principal, c'est la commémoration des 80 ans du retour de nos vieux qui sont revenus en mai 46. Et du coup, c'est un devoir de mémoire. Mission principale, là, c'est devoir de mémoire pour commémorer leur engagement durant la guerre.
Et pour cette messe un peu particulière, familles et amis des militaires du 15, mais aussi de très nombreux fidèles, se sont retrouvés à Rivière-Salée.
C'était une très jolie messe et leur animation était vraiment forte et puissante. On ressentait beaucoup d'émotions.
Pour moi, la messe, c'est aussi donc les valeurs du rassemblement, du partage. Donc c'est aussi des valeurs militaires, finalement. C'est les valeurs de la cohésion. Donc moi, j'ai ressenti un esprit d'équipe durant cette messe, un esprit de corps, on va dire, comme dans le milieu militaire. Donc voilà, on formait tous un tout, j'ai trouvé, surtout lorsqu'on chantait ensemble. Donc c'était vraiment agréable.
C'était un moment de partage, un moment de réunion avec les différentes communautés. Et aujourd'hui, en fait, c'est sous l'égide du 15 du Pacifique et c'est très plaisant. La famille est très contente parce qu'en fait, on se retrouve avec des anciens du 15 et le fait de rassembler comme ça toutes les familles de toutes les ethnies sur un même lieu, un moment de partage aussi important et aussi solennel, c'est vraiment très, très agréable.
Tous les dimanches, c'est bien. Mais là, c'était très bien avec tous ces jeunes qui ont bien chanté.
Ça fait plaisir de revoir, parce que nous venons de France aussi. On les connaît déjà de la France et ça fait plaisir de les revoir. Et c'était une belle célébration. C'est très varié.
Des propos recueillis ce matin par Kélinda Bouakou. Notez que le 15 du Pacifique sera demain en visite au RIMA PNC, au Cambroche de Ploume. Ils y seront accueillis par le colonel Belbeoc, le chef de corps du RIMAP, qui assistait lui aussi à la messe ce matin. Présent également ce matin, le général de brigade Bellon, le commandant du service militaire adapté, qui retrouve la Nouvelle-Calédonie, puisqu'en 2012, il avait commandé le RSMA. Jean-Pierre Djiwil, le chef du groupe Uni au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, défend l'accord de Bougival et son accord complémentaire, Élysée-Oudinot, mais il est conscient de l'incertitude qui entoure le processus parlementaire. Il l'a dit vendredi midi dans le magazine Transparence, dont il était l'invité, Michael Juneski.
La réforme constitutionnelle a commencé son cheminement parlementaire. Le projet de loi a passé la première étape avec un avis favorable de la commission des lois du Sénat, mais rien n'est joué. Elisabeth Noir a demandé à Jean-Pierre Djiwil s'il était inquiet sur l'attitude des parlementaires après les réserves émises par le Parti Socialiste.
On a entendu les positions des uns et des autres, ceux qui disent que s'il n'y a pas de consensus en Nouvelle-Calédonie, ça serait difficile d'avoir le consensus à Paris. Ceux qui disent que le report des élections provinciales en décembre 2026, la légitimité des élus questionne. Et puis, il y a ceux qui disent que l'accord de Bougival, c'est déjà un pas dans l'indépendance. Donc, il y a des positions différentes. Mais donc, pour ce qui nous concerne, oui, on ne sait pas. On sait qu'au Sénat, il n'y a pas de risque majeur. Mais à l'Assemblée nationale, effectivement, la question se pose.
Pour le chef du groupe Uni, les partenaires calédoniens et l'État ont pris leurs responsabilités. Ils ont mis 4 ans à examiner la situation ainsi créée et à trouver un accord. La balle est dans le camp des parlementaires.
S'ils jugent que, même avec l'accord complémentaire, certains sujets ne sont pas assez précis, ou bien le calendrier indicatif n'est pas le bon, c'est à eux, parlementaires, de prendre leurs responsabilités. Les députés et les sénateurs demeurent le constituant. Et donc, s'ils veulent que des choses avancent, que ça aille dans un sens ou dans un autre, c'est à eux de prendre leurs responsabilités et d'aller voir le gouvernement pour clarifier un certain nombre de sujets, en sachant que l'équilibre a été trouvé entre partenaires calédoniens. Donc ça, c'est nous ce que l'on souhaite, nous. Pour ce qui concerne l'Union nationale pour l'indépendance, c'est de respecter l'accord trouvé par les Calédoniens et puis faire en sorte à ce qu'on puisse passer cette étape du Sénat, de l'Assemblée nationale et du Congrès de Versailles pour qu'à un moment donné, le juge de paix, que ce soit les Calédoniens.
Les parlementaires socialistes contestent notamment le calendrier de la mise en œuvre des accords et ils souhaitent que les provinciales aient lieu en juin. Selon Jean-Pierre Djiwil, la question qu'il faut se poser, c'est que va-t-il se passer après ?
Parce que si on fait les élections et que les nouveaux élus doivent se remettre autour de la table pour reprendre tout à zéro, parce que finalement, si ça passe pas, l'accord de Bougival et son complément, ils tombent à l'eau. Donc, on reprend les discussions avec les nouveaux élus. Alors, sur quelle base? Sur la base de l'accord de Bougival que le FNKS rejette en bloc? De revenir pour recommencer les discussions, revenir à la case de départ? Les loyalistes n'en veulent pas non plus. Et donc, si on fait reprendre les discussions et s'il n'y a pas tous les partenaires calédoniens autour de la table, eh bien, on va continuer à jouer au chat et à la souris jusqu'en 2027. Et en 2027, il y a les élections présidentielles. Et là, c'est l'inconnu.
L'UNI défend donc le calendrier prévu dans l'accord Élysée-Oudinot, mais en ayant conscience qu'il sera difficile à tenir. Sur le fond, Jean-Pierre Djiwil soutient les précisions apportées par l'accord complémentaire, notamment dans le domaine du transfert des compétences régaliennes, même s'il reconnaît que l'UNI n'a pas pu obtenir tout ce qu'elle voulait parce que c'est une négociation. Il défend aussi le transfert de certaines compétences de la Nouvelle-Calédonie aux provinces, en rappelant que le mécanisme existait déjà dans l'accord de Nouméa.
Aujourd'hui, on dit on va donner aussi des compétences à la demande, mais on dit également que si une province demande une compétence au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, il faudra que ce soit le Congrès qui se prononce. Donc, pour nous, il n'y a pas de partition du pays, et on précise bien dans l'accord complémentaire qu'on parle plutôt d'attractivité économique. C'est la possibilité pour les provinces d'attirer des capitaux, d'attirer des investisseurs au niveau du pays pour le développement économique. Et on précise le développement économique et le rééquilibrage. Et le rééquilibrage, c'est important. Parce que si on va vers une hyper-provincialisation, ça va à l'encontre de la volonté de tous de faire pays. Donc il n'y a pas d'idée de partition.
Jean-Pierre Djiwil affirme aussi que ces accords sont soutenus par les adhérents de l'UNI. Et il adresse un message à ceux qui ont constitué l'UPK, une dissidence de l'UNI.
Nous, on leur dit tout simplement, il faut être correct. Si vous n'êtes plus d'accord avec les positions prises par le parti à l'unanimité lors d'un congrès, eh bien, vous n'êtes plus d'accord, eh bien, vous faites plus partie du palicat, vous êtes libre de créer un autre parti ou d'intégrer un autre parti. Mais il faut être correct. Il ne faut pas dire que je ne partage pas les décisions prises par un congrès du palicat, mais je reste toujours palicat. Ça, c'est pas correct.
Interrogé sur la position de Paul Nautin, Jean-Pierre Jaywe raconte qu'il est allé voir le président de la province Nord après Bougival et après Élisée Oudinot. Il indique que celui-ci a fait des observations, mais qu'il n'a jamais entendu Paul Nautin dire qu'il était contre l'accord de Bougival. Le chef du groupe UNI a enfin été interrogé sur les prochaines élections municipales.
Alors la nouveauté pour les élections municipales d'avenir, c'est que l'UNI sera présente dans toutes les communes, dans les 33 communes. Cette démarche d'ouverture sera présente. Alors, elle sera intitulée différemment en fonction des réalités locales. Ça peut être UNI, tout simplement, ou ça peut être une autre démarche d'ouverture. Alors, quand il y a les trois partenaires, c'est-à-dire Palika, UPM et l'association UNI dans une commune, ils peuvent être ensemble et ils forment donc UNI. Mais on peut ouvrir également à d'autres qui ne sont pas encartés dans un parti politique et qui ne sont pas forcément dans l'association UNI. On peut également ouvrir aux autres indépendantistes qui veulent travailler avec nous. Et on peut aussi également ouvrir aux militants de l'Union Réunionnaise qui veulent travailler dans cette démarche d'ouverture.
Une interview de Jean-Pierre Jaywe qui sera rediffusée ce soir et que vous pouvez retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site internet.
Encore quelques mots de l'actualité politique avec la réunion du bureau exécutif de l'UPM hier. Réunion qui a été élargie aux responsables des comités communaux. À l'ordre du jour, notamment l'examen des conditions du déroulement de la phase institutionnelle relative au projet de loi constitutionnelle. Le bureau exécutif de l'UPM qui rappelle dans un communiqué que, je cite, la négociation politique est achevée et que l'accord politique qui doit poursuivre son parcours constitutionnel. Et puis l'actualité politique, c'est aussi une nouvelle liste en course pour les élections municipales des 15 et 22 mars au Mont-d'Or. Hier, c'est Annie Reisé, élue au Congrès de la Nouvelle-Calédonie au sein de l'intergroupe Calédonie Ensemble Éveillé Océanien, qui a présenté sa liste baptisée pour un Mont-d'Or qui nous rassemble et qui nous ressemble. Pour l'heure, ce sont 5 listes qui sont en lice sur la commune du Mont-d'Or. En plus de la liste d'Annie Reisé, Elisabeth Rivière, la maire sortante, Nina Juillet, soutenue par les loyalistes, Petelo Sao pour l'éveil océanien et Tania Awuka pour le FLNKS se sont déclarés. Vers une dégradation des conditions météorologiques, il faut s'attendre à un nouvel épisode de précipitations pour ce dimanche et pour le début de la semaine prochaine. Les derniers jours ont déjà été marqués par des pluies particulièrement soutenues. On a fait le point avec David Esposito, chef prévisionniste au Centre Météo France de Nouméa.
Déjà, si on revient sur la semaine passée, on a observé régulièrement d'importants cumuls de précipitations. On a relevé plus de 500 mm en une semaine sur Goro et Yaté. Ces conditions très humides, de fortes pluies, sont directement liées à la persistance sur la zone d'un vaste couloir dépressionnaire qui stagne du nord de l'Australie jusqu'à proximité de la Nouvelle-Calédonie, ce qui maintient un air tropical sur le territoire. Il s'ajoute à un alizé modéré bien humide d'est-sud-est qui concerne surtout le sud de la Nouvelle-Calédonie. Si on a pu observer une brève alcalmie surtout sur la façade ouest pour les deux matinées de ce week-end. La dégradation s'est déjà confirmée par le nord et elle gagne dans la journée le nord, l'est et les loyautés. Une persistance de ce mauvais temps, il va se généraliser à l'ensemble du territoire la nuit prochaine et pour la journée de lundi. Et il faut garder en mémoire donc tous ces forts cumuls de précipitations gorgés les sols d'eau. Donc il faudra surtout faire preuve d'une grande prudence pour tous les déplacements et pour l'amélioration. C'est vrai qu'elle est en vue à partir de mercredi au niveau général, voire mardi sur l'ouest. Et de plus, je pourrais rajouter, du moins de notre côté, on va surveiller le creusement d'une dépression sur le nord du Vanuatu à partir du milieu de semaine prochaine, qui pourrait bénéficier vraiment de conditions favorables à son développement et éventuellement se rapprocher du territoire d'ici une semaine à 8-9 jours. Donc voilà, c'est pas de vraie amélioration, mais néanmoins un petit mieux à partir de mercredi et jusqu'à la fin de la semaine.
Notez que pour l'heure, la majeure partie du territoire est placée en vigilance jaune, forte pluie et orage, à l'exception de Dimbéa, Nouméa, du Mont-d'Or et de l'île des Pins, mais aussi Marée. Vigilance qui devrait être réévaluée dès cet après-midi par les services de Météo France Nouvelle-Calédonie. Il est midi et 14 minutes, on va marquer une première pause dans ce journal. Dans un instant, l'actualité en métropole et dans le monde, nous partirons notamment au Salon de l'Agriculture à Paris.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Jusqu'au 14 mars, à suivre et vivez le tournoi Destination 2026 sur Radio Rythme Bleu avec Elia by OPT. Rendez-vous sur notre site elia.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. Elia, au cœur de toutes les collections.
Envie de sensations, d'aventures ou simplement d'un moment de partage sur l'eau? La voile est faite pour toi. Viens découvrir les activités du Cercle Nautique Calédonien le samedi 28 février pour les adultes de 9h à 15h et le dimanche 1er mars pour les ados de 9h à midi avec des initiations gratuites à la voile de 30 minutes. Inscris-toi vite sur notre page Facebook ou sur notre site internet cnc.asso.nc.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
Et la suite du journal et le top départ de la 62e édition du Salon de l'agriculture. La plus grande ferme du monde a été inaugurée cette nuit pour nous par Emmanuel Macron qui a longuement déambulé dans les allées du Salon Porte de Versailles. Le chef de l'État qui s'est rendu bien évidemment dans le hall des Outre-mer. Emmanuel Macron qui s'est notamment arrêté au stand de la Nouvelle-Calédonie pour y rencontrer notamment des élèves du lycée Escoffier.
Comment ça va? Vous allez bien?
Bien, vous, merci de
visite.
Oui.
De quel âge?
18 ans.
Oh là là.
Les élèves du lycée Escoffier, vous voulez en mettre en avant notre jeunesse calédonienne?
Là, c'est un petit bœuf.
La viande, là. Madame la ministre demande qu'est-ce que c'est comme viande.
Alors là, on a du bœuf. C'est la race Brahman. On a des 50
ans.
On a décidé de présenter cette année au Salon de l'agriculture.
Les filières agricoles, les métiers de l'alimentation, du service, des arts de la table sont des métiers d'avenir. Et qu'il s'agisse en effet du service, de la cuisine, de la transformation, évidemment de l'agriculture. Ce sont des métiers où vraiment des filières qu'on veut valoriser. Vous pouvez être très fiers.
Emmanuel Macron, le président de la République, on visite donc sur le stand de la Nouvelle-Calédonie qui fait son retour à ce salon de l'agriculture. Salon de l'agriculture qui est un événement évidemment incontournable pour le monde agricole. Monde agricole qui gronde depuis plusieurs mois, pour ne pas dire depuis plusieurs années. Le chef de l'État a pu s'entretenir avec plusieurs syndicats, la FNSEA, les jeunes agriculteurs ou encore la coordination rurale. Pas de rencontre en revanche avec la Confédération paysanne qui a boycotté tout rendez-vous présidentiel. Le salon de l'agriculture passage obligé chaque année pour les personnalités politiques. Réaction d'agriculteurs avant ces défilés.
La politique, c'est quand même pas mal de belles promesses et qui sont pas forcément toujours tenues.
Chacun vote en fonction de ce qu'il pense. Ce qui est vraiment important, c'est une prise de conscience collective. On en a été capable pour l'armée de se dégager des moyens financiers dans le budget de la nation pour soutenir nos armées. On en a été capable pour l'énergie aussi avec la relance d'un programme nucléaire. Je pense qu'il doit y avoir un certain consensus politique qui s'établisse autour de la capacité à produire notre nourriture en France.
Évidemment que nous attendons énormément de l'élection présidentielle qui arrive. Mais aujourd'hui, vous dire qui va être en mesure de sauver notre agriculture dans ce panel de politique tel qu'on le voit aujourd'hui à l'Assemblée nationale, ça fait très peur.
La 62e édition s'est donc ouverte la nuit dernière pour nous. Une édition 2026 marquée, vous le savez, par l'absence de bovins pour cause d'épidémie de dermatose nodulaire. Conséquence, cette année, ce sont les ovins qui sont les stars de ce salon. Reportage Caroline Baudry pour Europe 1.
Un gigot bien rebondi, c'est des agneaux très bien conformés.
Bien conformés dans le jargon des éleveurs, c'est l'une des grandes qualités de ce mouton rouge de l'Ouest que Jules s'apprête à défendre sur le ring.
Le concours se fait un peu en deux parties, la qualité de la laine et aussi l'aspect général de la longueur, la hauteur, etc.
Sous les yeux d'un nouveau public, les visiteurs qui se rabattent cette année sur de plus petits ruminants.
On va être plus regardés que les autres années.
L'occasion d'interpeller les politiques, ajoute Antonin, qui remplit avec énergie, les auges de foin.
Ça va remettre un peu peut-être les moutons, les ovins au centre de l'attention, plus des politiques qui seront peut-être plus tournées vers nous. À voir s'ils seront écoutés les éleveurs et agir derrière.
Aider ces éleveurs d'agneaux à vivre d'un métier que beaucoup décrivent ici comme une véritable passion.
Caroline Baudry au Salon de l'agriculture pour Europe 1. 3200 personnes réunies à Lyon cette nuit pour nous afin d'honorer la mémoire de Quentin, marche blanche qui s'est déroulée cette nuit sans incident majeur. Romain et Pascal étaient présents à Lyon il y a quelques heures. Les deux hommes ont fait plusieurs dizaines de kilomètres pour rendre hommage au jeune homme de 23 ans battu à mort par des militants d'extrême gauche il y a une dizaine de jours.
J'ai fait l'aller-retour en train de Bourgogne. Par empathie pour Quentin, pour lui rendre hommage, pour aussi montrer que le combat qu'il menait, parce que c'était un militant, et je partage ses convictions, n'est pas vain. Il a été assassiné par les milices gauchistes Antifa, alliées avec LFI. Et on souhaite montrer que ses compagnons, ses camarades, honorons sa mémoire et continuons le combat pour les valeurs qu'il portait.
On constate tous un drame absolument épouvantable. Quelqu'un qui vient effectivement manifester librement et pacifiquement se faire tabasser par ce qu'ils appellent des antifascistes, qui sont ni plus ni moins des gens qui n'acceptent plus la démocratie, qui n'acceptent plus le vivre ensemble. Et la moindre banderole fait l'objet effectivement d'un tabassage et d'un règlement de compte, une impossibilité de s'exprimer. Et ça se termine par la mort d'un jeune homme, et ça c'est inique, c'est indigne.
Un témoignage recueilli par Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1 à Lyon. Toujours à propos de cette affaire du meurtre de Quentin, cette information révélée tôt ce matin pour nous par le Figaro. Donc, confrères ont pu consulter une boucle WhatsApp informelle sur laquelle des professeurs de Sciences Po Paris débattent de l'actualité. Sur cette boucle qui regroupe 250 enseignants, on parle forcément de la mort de Quentin. Problème, certains ne font pas que débattre. Deux de ces professeurs ont justifié la mort de Quentin. Mathis Lang pour Europe 1.
Le premier est professeur de sport, alors qu'un article sur la mort de Quentin est partagé dans le groupe, il réagit sans détour. Selon lui, la victime est un militant nationaliste qui était là pour protéger les racistes transphobes de Némésis. Et d'ajouter, Raphaël Arnaud, c'est un antifasciste, le mec mort, c'est un néo-nazi. Le Figaro raconte que les débats sont houleux, l'un des membres tente de temporiser. Mais un autre professeur, chargé d'un cours d'économie, cette fois-ci rue Saint-Guillaume, revient à la charge et enfonce le clou. Ces nazillons ont récolté ce qu'ils cherchaient, et ce à plus d'un titre, dit-il. Une atmosphère habituelle dans l'enseignement supérieur, mais aussi l'éducation nationale d'après Marie, elle est professeure. Elle intervenait à la mi-journée dans Elliott de Valais-Vous.
Il y a quand même une espèce de calotte de gauche qui règne en maîtresse, qui fait que lorsque vous êtes vous-même enseignant et que vous n'adhérez pas à ces idées-là, vous êtes nazifié, extrême-droitisé, évidemment, automatiquement.
Interrogée sur cette affaire, la direction de Sciences Po indique qu'elle ignorait l'existence de ces propos tenus de façon informelle et dit examiner leurs implications juridiques.
Mathis Lang du service police-justice d'Europe, un mot de l'actualité à l'étranger. Ce nouveau droit de douane annoncé par Donald Trump, 15% supplémentaire contre 10 initialement annoncés. Mesure à l'échelle mondiale prévue pour une durée de 150 jours. Riposte à la décision de la Cour suprême américaine qui a jugé illégale une bonne partie des surtaxes douanières récemment mises en place par les États-Unis. Midi 23 minutes, une dernière pause dans le journal. Dans un instant, l'actualité sportive.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Et si vous repreniez la main sur vos compétences, sur votre avenir professionnel? Avec Scasi Formation, développez les compétences d'aujourd'hui et de demain. L'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, le design et les métiers du digital. Ne vous laissez pas dépasser. Formez-vous, avancez. Scasi Formation, prenez votre destin professionnel en main. Appelez-nous au 26 20 69 ou rendez-vous sur formation.scasi.nc. Formations éligibles au financement.
Aquavena vous régale et vous fait gagner. Jusqu'au vendredi 6 mars, tentez de gagner vos repas Aquavena d'une valeur de 140 000 francs. Pour jouer, c'est simple, envoyez chance au 40 20 par SMS. Aquavena, ce sont des produits frais de qualité avec des repas classiques, diététiques, sans gluten, végétariens, méditerranéens, low carb, pour une alimentation équilibrée et pleine de saveurs. À la carte ou en menu, livré chez vous ou à emporter, 7 rue Charleroi, téléphone 23 65 95. Commandez également en ligne et retrouvez-nous sur Facebook. Aquavena, le plaisir de bien manger. Alors prêt à vous régaler? Envoyez chance au 40-20. Tirage au sort vendredi 6 mars à 14h, 371 francs par SMS. Bonne chance! Sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on va parler football et avant d'évoquer la 23e journée de Ligue 1, on évoque le possible retour d'un certain Antoine Camboiré aux affaires, le Calédonien, qui pourrait devenir l'entraîneur du Paris FC dans les prochaines heures, Michael Juneski.
Eh oui, est-ce déjà fait? Est-ce que ça va se faire? En tout cas, la presse spécialisée s'est déjà largement emparée du dossier. L'équipe, l'AFP, le quotidien Le Parisien. Antoine Comboiré serait sur le point de rempiler. Le coach calédonien pourrait prendre les commandes du Paris FC. Lui qui a déjà joué et entraîné le PSG. Il retrouverait la capitale, mais vers une nouvelle mission sauvetage au Paris FC promu cette année et qui cherche à assurer son maintien dans l'élite. Il devrait prendre la succession de Stéphane Gilly alors que l'équipe parisienne a fait match nul aujourd'hui contre Toulouse, une ancienne équipe entraînée par Comboiré, un but partout. Antoine Comboiré qui avait mis sa carrière en pause après son départ du FC Nantes et notamment une opération d'un genou. Il nous l'avait confié lorsqu'il était venu sur RRB en fin d'année dernière. Il pourrait reprendre donc du service dans le deuxième club de la capitale, revenu en première division après 46 ans d'absence. L'information n'a pas encore été confirmée officiellement par le club, mais la conclusion du dossier serait imminente. On rappelle qu'Antoine Comboiré a déjà entraîné sur les pelouses du championnat de France. Le PSG donc, le RC Strasbourg, Valenciennes, le RC Lens, Guingamp, Dijon, Toulouse et à plusieurs reprises le FC Nantes, des clubs qu'il a toujours réussi à faire monter ou maintenir en Ligue 1, sans oublier les deux finales dont une gagnée en Coupe de France en 2022 avec les Canaries. Le Paris FC est actuellement 15e de la Ligue 1, à 5 points de la place de barragiste. Il reste 11 journées à disputer cette saison.
Et sur les terrains cette fois-ci, l'autre Paris, le Paris Saint-Germain, a repris son fauteuil de leader.
Oui, lors de la 23e journée de Ligue 1, le PSG qui n'a pas tremblé face à la Lanterne Rouge. Succès sur Metz, 3-0. Des réalisations signées Doué, Barcola et Ramos. Et voilà Paris de nouveau en tête, car de son côté, le RC Lens n'a pas réussi à tenir la cadence. Une défaite 3-2 à domicile face à l'AS Monaco, alors que les Lensois menaient 2-0 à l'heure de jeu. On le disait, plus que 11 journées de championnat et le duel semble déjà bien lancé entre ces deux équipes qui ne sont séparées que par 2 points au classement. Suite des rencontres demain matin avec Auxerre-Rennes, Nice-Lorient, Nantes-Le Havre, Angers-Lille et Strasbourg-Olympique Lyonnais.
Venons-en aux Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina avec 2 nouvelles médailles d'or pour l'équipe.
Et tout d'abord le biathlon, encore la discipline pourvoyeuse de podium pour les Bleus avec la Mastart féminine qui s'est terminée par un doublé français, Océane Michelon, qui a décroché le titre devant Julia Simon. À 23 ans, c'était inespéré pour Océane Michelon.
Non, bah c'était vraiment... Ouais, même moi j'ai du mal à réaliser tout ça et bah, ça fait plaisir de fêter ça avec toi après toutes les années d'inspiration. Et ouais, c'était une belle course, c'était pas facile. On s'est battu jusqu'au bout et il y a eu pas mal de remue-ménage, on va dire. Et ouais, c'était vraiment un beau combat.
Et puis un titre inattendu en ski alpinisme, le duo Emilia Rope-Thibaut Anselmet qui a aussi gagné l'épreuve du relais mixte en devançant les équipes suisses et espagnoles. La France est donc 5e du classement des médailles, 23 médailles dont 8 en or. Les Norvégiens dominent toujours ce tableau, déjà 40 médailles dans ces JO, 18 titres olympiques. Les États-Unis sont 2e avec un total de 31 médailles. Les Pays-Bas sont montés sur la 3e marche du podium devant les Italiens à domicile. Les Jeux Olympiques d'hiver 2026 s'achèveront demain matin. Notez que les noms des porte-drapeaux de la cérémonie de clôture ont été dévoilés aujourd'hui. Lou Jean Monod et Mathis Desloges marcheront en tête de la délégation française à Milan-Cortina.
Performance, engagement, dépassement de soi, entrez dans la mêlée des pages spéciales tournoi destination sur Radio Rythme Bleu avec l'OPT. OPT, le monde à portée de main.
Avec la 3e journée du tournoi Destination et en attendant le match du 15 de France, ce sera la nuit prochaine, ben c'est l'Écosse qui a pris la tête du classement général.
Les Écossais qui ont triomphé du Pays de Galles 26-23. De son côté, l'Angleterre a subi un sérieux revers face à l'Irlande à Twickenham. Le 15 de la Rose s'incline 42-21. Le 15 de France, seule équipe encore invaincue dans le tournoi, jouera donc la nuit prochaine, vous le disiez, à partir de 2h10 du matin contre les Italiens. Un bémol toutefois, on a appris aujourd'hui que Mathieu Jalibert serait forfait pour cette rencontre. On signalera encore que les Bleuets, les moins de 20 ans, se sont imposés face aux Italiens sur le score de 32-17. Comme pour leurs aînés, le Grand Chelem est toujours possible pour les jeunes tricolores.
Jusqu'au 14 mars, suivez le tournoi Destination sur Radio Rythme Bleu avec l'OPT. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Allez, le sport en Calédonie et cette belle réussite pour le NEA City Trail ce samedi soir. La rentrée des trailers s'est faite dans une belle ambiance au départ des boucles de Tina.
Le plein de musique, de lumière, de boue et de grands sourires. Si la pluie a épargné les coureurs, le terrain était évidemment marqué par les dernières précipitations. Ce n'était pas pour déplaire aux aventures aventuriers aguerris autant qu'aux novices qui ont apprécié cette première épreuve de l'année. Plus de 1200 personnes au départ, le maximum autorisé pour l'organisation. Organisation, le rappel, assuré par Pro Events qui envisage déjà de voir plus grand l'année prochaine. Un vrai succès populaire.
Ça fait très plaisir, il y a du monde, il y a de l'ambiance. C'était un peu glissant, mais c'était fun.
C'était sympa, il y avait une bonne ambiance.
C'était trop cool, j'ai bien aimé en fait, mais c'était plus dur que je pensais.
Et les zigzags comme ça, c'était top, ouais.
C'était vraiment pas mal, hein. C'était impeccable, il était bon.
C'était magnifique, hein. Un peu boueux, mais comme on aime, hein, c'est ça qui est fun.
C'était bien, c'est vraiment top. Ça a été que je conseille à tout le monde. Bon parcours.
C'était super, je suis contente d'avoir fini sans être tombée.
C'était trop bien.
C'était chouette de courir avec ma fille, qui a couru aussi vite que moi. J'ai bien aimé le fait d'être dans le golf, de pouvoir voir tout le monde. C'était très chouette. Et la partie avec les bambous, parce que j'adore courir dans les bambous.
C'est super, glissant. On n'est pas tombé, on n'a pas glissé. Tout va bien.
C'est au top. Super ambiance. Et des DJ, j'adore.
Le parcours a été super, l'organisation est au top. Bravo Pro Event.
C'est top, c'était génial.
Sur le parcours, dans cette belle ambiance, 15 km, victoire de Florian Marot. Sous la barre de l'heure de course, 59 minutes 19 secondes, il a devancé Tom Lacombe et Johan Souchu. Chez les féminines, victoire d'Emmanuel Favard devant Jessie Loyer et Clémence Grail. Vous les avez pu les entendre dans nos précédentes éditions. Notez que ce Nea City Trail donnait le coup d'envoi du tout premier Punch Power Trail Pro Tour, le premier championnat des trails organisé par Pro Events.
Allez, avant de nous quitter hors du territoire, de bonnes nouvelles en athlétisme.
Aurore Manou Fekai qui est devenue championne de France hivernale des moins de 23 ans au lancer de poids, hein, lancée à 14,87 m à son quatrième essai lors d'un meeting à Nice. Performance encourageante à une semaine des France Elite. Et puis un autre Calédonien engagé, Daniel Filitu-Oulaga, qui s'est lui classé trois fois finaliste au disque, au marteau et au poids.
Merci Mickaël. Midi 31, la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Il sera disponible d'ici quelques minutes en réécoute sur notre site internet, le www.rrb.nc. On se retrouve à 13h pour un nouveau point sur l'actualité. Bel après-midi, à tout à l'heure.